Chapitre 1. Le coup de foudre. La petite fille s'appelait Sylvette. C'était une enfant silencieuse. Elle était blonde, fraîche, rose et en très bonne santé. Elle avait un chien. Et ce chien était noir. Un gentil chien, très doux. Aussi silencieux qu'elle. Il la regardait avec adoration. Il mendiait d'elle en permanence une impossible grâce. Il semblait lui dire « Aide-moi à être ton égal, aide-moi à devenir un petit garçon !» C'était son meilleur compagnon de jeu. Souvent, en silence, ils roulaient tous les deux par terre. Elle lui tirait les moustaches, elle chuchotait un secret au creux de ses oreilles poilues. Il riait presque autant qu'elle, découvrant de belles dents acérées et blanches. Et Sylvette avait en sa présence un sentiment inestimable de chaude et tendre sécurité. Sylvette était très proche de sa mère. Celle-ci était énergique, active et gaie. Elle aimait chanter. Le père, lui, était presque toujours absent. C'était un père voyageur, et on s'accommodait fort bien de ses voyages. Il n'en rapportait pas de cadeaux ni de miraculeux souvenirs, seulement une humeur inquiète. Il était éternellement tourmenté et nerveux. La paix de la maison était perturbée par sa présence. N'était-ce pas cela qui faisait tellement rire le chien? Il aimait sans doute être le seul représentant vraiment agréable de la race masculine au sein de la demeure. Un jour où Émile était de retour et de comportement particulièrement sombre, Lucie décida qu'on irait au théâtre. Lucie était cultivée. Émile, pas du tout. C'était entre eux un drame. Émile protesta devant ce projet. Sylvette est trop petite, elle se couchera beaucoup trop tard. Sylvette a besoin qu'on l'élève, dit Lucie. As-tu réfléchi à cette expression, Émile? Élever un enfant? C'est la plus belle de la langue française. Eh bien, on élève un enfant en ouvrant son esprit aux émotions artistiques. On l'élève, Émile. On lui fait quitter le triste quotidien, sa petite âme s'ouvre, s'épanouit, s'aère. La mienne aussi, d'ailleurs, a besoin d'aération, conclut-elle avec un soupir. Émile trouva que ce soupir était chargé d'une terrible éloquence. Lucie arrêta son choix sur Thaïs. La grande ville voisine possédait un très bon et vaste théâtre lyrique. Et quoi de plus propre à ouvrir, épanouir, aérer l'âme et l'esprit que la musique. On irait donc voir Thaïs. On pensa pendant 2 semaines à l'aventure, après avoir choisi pour la sortie un des retours éclairs d'Émile. Le jour venu, Lucie passa à Sylvette une robe neuve qu'elle avait elle-même coupée et cousue dans un joli tissu rose fané, un tissu doux au toucher qui s'appelait une peau d'ange, ou de la peau d'ange. Sylvette ne savait pas très bien. Elle aimait se dire qu'elle aurait sur elle une peau d'ange. Une peau d'ange était pour elle seule. De la peau d'ange pouvait se distribuer à l'infini, comme de la soie ou de la laine. Cela faisait une grande différence. Lucie prenait plaisir à occuper ses loisirs devant sa machine à coudre. Elle travaillait toujours en chantant. Quelques mesures de la méditation de Thaïs et de l'air du miroir. « Dis-moi que je suis belle. » Et que je serai belle éternellement, éternellement. N'avait pas manqué de se glisser parfois dans sa ligne mélodique, pendant que la machine, un peu bruyante, semblait faire vrou, vrou, avec enthousiasme et admiration. Lucie, ce soir-là, avait donc habillé Sylvette. En jouant avec elle, et la cajolant comme sa chose, sa douce petite fille sage, elle lui avait enfilé la robe en peau d'ange, sur laquelle elle passa le manteau d'école en épaisse ratine bleue. Puis elle lui entortilla le cou dans l'indispensable cache-nez des écoliers de campagne. Et après avoir posé un baiser sur sa joue, pour couronner le tout, elle lui dit « Tu es prête !» et fila à sa propre toilette. À l'époque lointaine dont je parle, une mère de famille n'avait pas le droit d'être coquette. Lucie ne l'était pas. Elle mit la robe noire convenant à cet événement, qui est une sortie en ville, essaya de faire un peu d'ordre dans ses cheveux mousseux et indisciplinés, qu'elle mata en les tortillant dans un chignon sans fantaisie, sachant par expérience qu'ils en sortiraient à la moindre occasion. Mais tous ces préparatifs n'étaient pour elle qu'un rite fastidieux, alors qu'Émile, au même moment, dans un autre coin de la chambre, apportait le plus grand soin à sa personne, brossait ses moustaches, ses vêtements, ses souliers, lissait ses cheveux avec un onguent parfumé, en proie à une satisfaction profonde, heureux de se sentir jeune et beau. Il descendit en sifflotant, et il se trouva en présence de Sylvette, assise sur la dernière marche de l'escalier. Elle tenait la laisse de son chien. « Que fais-tu avec cette laisse ?» demanda Émile surpris. « J'emmène Rack, » dit la petite. « Mais tu es folle ! En voilà une idée ! On n'emmène pas un chien au théâtre !»«
Je l'emmène comme ça ?» dit Sylvette en faisant traîner la laisse à ses pieds.
« Cet enfant est folle ! Cet enfant est complètement folle !» dit Émile qui commençait à sortir de ses gonds.
Du haut de l'escalier, Lucie demanda « Pourquoi cries-tu, Émile ?»«
Ta fille me dit qu'elle emmène son chien au théâtre. Un chien ne va pas au théâtre. Je n'ai pas acheté de place pour ce chien. »
« Voyons, Émile, ne sois pas ridicule. Ne nous gâche pas notre soirée. »«
Que veux-tu, Sylvette ?» demanda Lucie qui les avait rejoints.
« Emmenez Rack, comme ça, » dit Sylvette. Elle s'était levée, avait fait quelques pas extrêmement dignes, et la laisse traînant derrière elle.
« Ah !» dit Lucie, « si c'est comme ça, tu seras forcément d'accord, Émile. Rack et Sylvette seront contents, et moi aussi, et toi aussi. »«
Elle se fout de moi !» pensa le père.
Il fit dans l'air avec les bras un moulinet de totale incompréhension et dit
« Je vais mettre la voiture en marche. »
Mais ses dispositions favorables venaient d'être gravement endommagées. Il reprit cependant l'avantage quand, à son volant, en chef de famille responsable, il partit par la route d'hiver. Il aimait rouler de nuit. Sylvette aussi. Toute vitre close, cette maison étroite et ambulante l'enchantait. Elle ne distinguait plus la frontière entre l'irréel et la réalité. Son cœur éclatait d'une sorte de frénésie. Elle se sentait heureuse, amoureuse, abandonnée à la passion. Folle. Elle ne comprenait plus rien à elle-même. Elle était trop petite pour se contenir. C'était grisant, la vitesse, ce mystère de l'ombre troué par les phares dans lequel Émile savait si bien se mouvoir. Ce soir, elle était en plus transportée de joie par sa victoire. Elle avait pu emmener son chien comme ça. Ce serait sûrement une très grande et très importante soirée. Elle s'endormit un peu, rattachée à la vie, par la laisse de son chien. Quand la voiture s'arrêta et qu'il fallut sortir à la fois du sommeil et de l'endroit chaud et sombre pour affronter le froid de la ville et ses lumières, il y eut un moment difficile, une sorte de petit coma nauséeux. Pourtant, elle se lança dehors, toujours accrochée à la laisse.
« Lâche cette laisse, Sylvette !» dit Émile avec une douceur excédée. « Tu la retrouveras tout à l'heure !»«
Non, » dit Sylvette. « J'ai promis à Rack de l'emmener. »«
Du moment que c'est seulement comme ça, il n'y a pas de mal, » dit Lucie. »
Et Sylvette entra au théâtre, suivie comme d'une traîne par la laisse de Rack. On s'écartait légèrement pour ne pas risquer de se prendre les pieds dans cette courroie brune. Cela donna à Sylvette importance, assurance et majesté. Elle en était parfaitement consciente. Lucie la tenait par la main, et Émile, les précédant un peu, les billets brandis en avant, avait l'air de ne pas les connaître. On s'assit dans la loge. Lucie et Émile devant, Sylvette en retrait dans le créneau de leur siège. La salle était bruyante, houleuse, écarlate, éblouissante de lumière. On enleva cache-nez et manteau, et Sylvette se retrouva toute neuve dans la robe qu'elle étreignait, envahie de sensations multiples et jamais encore ressenties. C'était comme le ressac qui se jetait sur elle. Elle était battue de toutes parts, petite algue fragile sous la violence de la mer. Elle avait le souffle coupé. Tout était trop nouveau, trop inattendu. Il faisait si chaud. Le bruit était si surprenant qu'il montait de cette foule de spectateurs heureux et excités. Elle ouvrait des yeux immenses. Elle voyait les musiciens s'agiter dans la fosse d'orchestre.
les instruments brillaient. On accordait des violons, on soufflait dans une flûte, on remuait les partitions, on disait bonjour à un voisin de pupitre, on riait, on bavardait. Tout était en effervescence. Puis, avant qu'on ait eu le temps de s'habituer à cela, la salle perdit graduellement de sa clarté. Le chef venait d'entrer dans la fosse. Il se présenta au public, qui l'applaudit. Son habit était impressionnant de sobriété. Son visage était grave. Sylvette, au cœur de cette foule assise, qui continuait à applaudir à tout rompre, frissonna. Ayant reçu ses marques d'approbation, et pour y mettre fin, le chef se tourna vers les musiciens, qui tous s'étaient tus, et semblaient soudain fort attentifs. La salle était plongée dans une pénombre diffuse. Seule la fosse d'orchestre était éclairée, ainsi que le rideau rouge de la scène. Sylvette, et vit que le chef prenait sur son pupitre une petite baguette. Il était comme un magicien. Il leva les bras. Le silence maintenant était bouleversant. Le temps suspendu. Puis, la baguette fit entendre trois coups secs sur le pupitre. Qui donc avait bougé? De nouveau, les bras en l'air, le chef attendit. Enfin, avec beaucoup de souplesse, comme les ailes d'un grand oiseau qui plane, les bras descendirent, libérant un flot de musique qui s'étendit sur Sylvette et la noya complètement. Elle eut quelque mal à revenir à la surface. Ce furent les airs qu'elle avait entendu Lucie chanter qui l'y aidèrent. Elle les retrouvait dans l'ouverture, considérablement transformée, mais elle les retrouvait. Elle n'était donc pas vraiment en pays étranger. Maman servait de guide. Elle mit sa main libre sur le bras de Lucie. Elle était doublement amarrée, au bras de sa mère et à la laisse de son chien. Quand se leva le rideau rouge, oh, quand se leva le rideau rouge, elle entra dans un domaine si extraordinairement inconnu qu'elle ne comprit plus rien à rien. C'était, sans préparation, quelque chose comme l'arrivée sur la lune ou le face-à-face avec ce qu'on ne peut regarder sans tomber foudroyé. Instinctivement, elle ferma les yeux. Puis, progressivement, avec prudence, les entr'ouvrit à peine. L'expérience qu'elle fit ainsi, paupières mi-closes, reste tout à fait incommunicable. Pourtant, quel que fût l'état de bouleversement où elle se trouvait, elle suivit très bien l'histoire. Elle comprit que la femme si belle, habillée de voile, menait une vie répréhensible. Elle comprit qu'Athanaël, le grand prêtre, l'attirait des griffes du monde. Elle comprit qu'elle avait peur de vieillir, et se dit qu'après tout, Lucie aussi interrogeait sa machine en cousant, comme Thaïs interrogeait son miroir. « Dis-moi que je suis belle, et que je serai belle éternellement, éternellement. » Elle vit la scène de l'oasis. Et ce fut un déchirement pour elle que la présence de ces deux êtres ensemble est pourtant séparée, unie seulement par le déferlement mélodieux des sons qui sortaient de leur gorge et de leur poitrine, et se laissaient porter par la musique. Elle comprit très bien que Thaïs s'était mise à aimer Dieu, et qu'Athanaël maintenant aimait Thaïs. Cette révélation fut si intolérable que la main de Sylvette quitta le bras de Lucie. Sylvette crut qu'elle allait vomir son cœur. Tout se mit à tourner. Et Lucie perçut un bruit mat au fond de la loge. Émile et elle se retournèrent. Un petit tas de peaux d'ange rose était recroquevillé par terre. Sylvette s'était évanouie. Il y eut un léger affolement. Lucie et Émile enjambèrent leur siège. On tira Sylvette à l'air du couloir qui longeait les loges. Et il se passa quelque chose d'extrêmement singulier. Près de la laisse, Arac le chien était là, consterné. Il avait le nez à la hauteur du visage de la petite fille et lui léchait la figure comme il l'aurait fait d'une tartine beurrée. « Que fait ici ce chien ?» dit Émile, les yeux hors de la tête. « Je ne sais pas, dit Lucie. Beaucoup de choses sont inexplicables, Émile. »« Ah, je t'en prie, pas de philosophie, répondit le père. « Sortons cet enfant de là. » Et dit à ce chien de ne pas la lécher, c'est absolument dégoûtant. C'est dégoûtant, mais si affectueux. Regarde, cela la fait revenir à elle, beaucoup mieux qu'une paire de claques. En effet, Sylvette ouvrait les yeux. Elle était un peu pâle, mais aussi émerveillée qu'heureuse de la présence de son chien.
« Je savais bien que tu viendrais, » lui dit-elle gravement.
Tous les quatre sortirent du théâtre en proie à des sentiments si opposés qu'ils auraient pu, comme Thaïs et Athanaël, chanter leurs airs sans jamais se rejoindre. On refit le chemin inverse en voiture à travers la nuit.
Et Sylvette, à l'arrière, était accrochée au cou de Rack.
Lucie s'interrogeait tout haut. « Pourquoi t'ont appelé ce prêtre Athanaël ? Dans le roman d'Anatole France, il s'appelait Paphnus. » À quoi Émile, qui n'avait pas lu France, répondit agacé. « Crois-tu que le moment soit bien choisi pour poser des questions de cet ordre ? Moi, je te demande, comment ce chien est-il arrivé là ?»«
Il existe des phénomènes parapsychiques, Émile. On en parle dans les livres de Flammarion. Si tu les avais lus, tu le saurais.
Ce besoin que tu as de m'épater avec ta science, ce serait trop simple de penser qu'il s'est sauvé et a pris la route derrière nous, ventre à terre. Tu n'as pas vu qu'il est crotté comme un barbet et qu'il a l'air crevé ? Tu as vraiment le goût de la complication et de la littérature. »
Émile venait de reprendre la situation en main.
« Sylvette l'a certainement appelé au secours et il l'a entendu, » insista Lucie.
« Naturellement, ta fille ne peut être comme toi qu'un petit génie. »
N'empêche que ce soir-là, on permit à Sylvette de garder son chien dans sa chambre.
« Cette petite est bouleversée. Passons-lui exceptionnellement un caprice, Émile, » dit Lucie.
« J'avais prévu que ce serait une folie, » marmonna Émile en dénouant fébrilement son nœud papillon. « Et pour élever l'âme de ta fille, tu aurais pu choisir un sujet moins scandaleux. »«
Scandaleux ? » s'exclama Lucie.
« Mais Émile, Thaïs se convertit à la foi chrétienne. »«
Ah, je t'en prie, ne fais pas l'innocente. Tu n'as pas vu que lui, le malheureux type, était dévoré de passion ?»
Émile se sentait prête à toutes les violences. Sa nuit et celle de Lucie en furent extrêmement agitées. Quand le lendemain matin, Lucie, un peu lasse, vint dans la chambre de Sylvette, celle-ci avait les yeux grands ouverts. Quant à Rack, le museau sur les pattes, il savourait la fin de cet instant privilégié.
« As-tu bien dormi, ma chérie ?»«
Oui, » dit Sylvette.
« Mais, maman, je voudrais te dire quelque chose. Je voudrais apprendre à chanter. Je voudrais faire du théâtre. »«
Ah ?» dit Lucie interloquée.
« Pourquoi ?»«
Pour avoir un grand amour. » Au petit déjeuner, Lucie rapporta ses propos surprenants au père.
« Jamais, jamais !» dit-il. « Quand je l'ai vu allongé par terre, ça a été un vrai coup de tonnerre. »«
Oui, » répondit Lucie avec douceur. « Un coup de tonnerre pour toi, un coup de foudre pour elle, Émile. »
Ce coup de foudre, qui, d'émotion, m'a jeté au tapis pendant la représentation de Thaïs au Théâtre Grasselin de Nantes, pour en retrouver la vérité, il m'a fallu devenir Sylvette, la petite fille idéale que je n'ai certainement pas été.
Je l'ai appelée Sylvette parce que j'ai beaucoup aimé Sylvia du jeu de l'amour et du hasard. Sylvia est une amoureuse triomphante, le point fort du rôle étant en effet un cri de victoire. « Enfin, j'en suis venue à bout, » dit-elle en parlant de Dorante, dont soudain elle ne peut plus douter de l'amour. Si j'avais employé le « moi-je » pour vous parler de la naissance de ce qu'on se plaît à appeler une vocation, la part de l'inconscient aurait été perdue. Je me serais livrée à la logique, qui s'est si bien arrangée et interprétée que c'est à peine si on la voit mentir. Et peut-être n'aurais-je jamais démêlé que si j'ai voulu faire du théâtre, c'était en effet pour vivre un grand amour. Quand la graine est semée, elle vient à éclore. Ensuite, une pousse en sort qui cherche à apparaître au jour. Abolissant quelques années sur lesquelles je serais amenée d'ailleurs à revenir, tout naturellement j'ai abordé dans la nouvelle suivante l'époque qui correspond pour moi à la percée de la jeune tige vers la lumière, celle de mon entrée au conservatoire, car c'est dans ce lieu que se décida sérieusement mon avenir. Le Pain des Anges se situe dans les premiers mois passés à l'école de la rue de Madrid où se donnaient alors les cours d'art dramatique. Bien que j'y porte encore un nom d'emprunt, tout dans mon récit est absolument authentique, y compris la résurgence du cantique qui lui sert de titre. Les cantiques
ont beaucoup marqué mon enfance privée d'éducation religieuse. L'école laïque vivait à l'ombre du clocher. Dimanche et jeudi, dans la cour déserte, j'entendais les offices. Et, quand les voix de mes camarades de classe entonnaient des chœurs sur la musique que diffusait l'harmonium, j'étais vraiment en peine. Pourquoi étais-je exclue de ce cérémonial? Je comprenais mal le conflit qui opposait clergé et laïcité. Dieu aurait dû accorder les humeurs. Et que mon père fût socialiste, ce qui n'avait aucune signification pour moi, qu'il ait créé une clique où l'on pouvait jouer gaiement du clairon après le travail, faisant ainsi du tort au groupe de loisirs des jeunesses chrétiennes, n'étaient pas des raisons suffisantes à mes yeux pour que je fusse privée du bonheur collectif de chanter la gloire du Seigneur. Je fredonnais donc un peu tristement, puni dans ma cour de récréation, ainsi que je l'aurais été au cachot, pure et clandestine, telle une chrétienne des premières heures, m'imaginant habillée de lin comme sainte Blandine, en somme, dans une fosse sans lion.